Il y a 15 jours, on a été exclusif au camp des personnes âgées de l'ELG. Et j'avais choisi comme sujet de parler de la foi. Et pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi au sujet de la foi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est un sujet extraordinairement varié. La foi, ça nous semble un mot presque simple, mais en fait, ça a des multitudes de sens. On doit garder la foi, on est sauvé par la foi, on doit prier avec foi, etc. C'est multiforme. Mais au cœur de cela, il me semble que la foi, c'est essentiellement avoir une confiance en quelqu'un d'autre, une confiance en lui. C'est peut-être la manière la plus simple de dire c'est la foi. Je fais confiance à un autre. Mais ceci dit, c'est pas si simple. On est sauvé par la foi. Et c'est le premier. Je vais citer deux versets avant de partir dans mon sujet. Le premier verset, c'est Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est sauvé en recevant par la foi la grâce, le cadeau de Dieu. La foi, c'est qu'un moyen. C'est pas un moyen d'acquérir la grâce. Ça se reçoit. Et c'est pas si évident que ça. Pendant plusieurs années, moi, je désirais, je voulais connaître mieux Dieu. Et ma manière de le faire, c'était d'essayer de me convaincre, d'être sûr. Je construisais ma foi. J'essayais d'avoir suffisamment de foi pour être sauvé. Et c'est exactement l'opposé. J'essayais, si on veut, d'acquérir le salut en croyant assez fort. Et la foi, c'est exactement le contraire. C'est totalement dans l'autre sens. C'est l'accueil de la grâce. Le point essentiel, c'est la grâce qui vient. C'est pas tellement ma foi. Ma foi, elle est là juste pour recevoir. Et je pense que chacun de nous qui a connu le salut de Dieu réalise bien que ce n'est pas quelque chose qu'il a, qui réalise bien que c'est un pur cadeau, que si on croit en Jésus, si on sait qu'on est sauvé, c'est vraiment pur cadeau, on le sait. Donc la foi foncièrement, c'est quelque chose qu'il reçoit. Puis pas seulement juste pour être sauvé. Il y a un autre verset qui, dans cette préparation, m'avait frappé. C'est dans Marc 9, verset 24. C'est l'histoire d'un enfant qui est épileptique. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La foi, elle non seulement c'est quelque chose de, je dirais, qui est là, mais on a sans arrêt besoin de secours de Dieu pour soutenir cette foi. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, c'est pas quelque chose qu'on possède, qu'on a. Non, sans arrêt, on a besoin toujours de recevoir comme à nouveau la foi. Viens au secours de mon incrédulité. C'est quelque chose de dynamique, la foi. C'est pas quelque chose de statique. Mon sujet à la pelouse, donc pendant ce camp, c'était comment vivre par la foi. Il y a un verset dans Romains 14, 23 qui dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Ça montre le sérieux. Hein. Mais c'est quoi? Quand je vis, en quoi je vis par la foi? Parce que si ce qui manque c'est péché, où j'en suis, comment? Et en étudiant vraiment en détail ce sujet, je me suis rendu compte ça nous dépasse, on n'arrive pas à comprendre vraiment. Et Dieu le sait. Il le sait. Si c'est si difficile à expliquer, si c'est si difficile à se faire une image mentale, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Dieu nous donne des exemples, il nous donne des modèles, il nous donne des témoins qui montrent les multiples facettes par lesquelles on vit par la foi. Et c'est bien entendu Hébreux 11, où il y a tous ces héros de la foi qui sont là pour nous faire sentir sous différents éclairages Qu'est-ce que c'est finalement dans notre vie, concrètement, avoir la foi, marcher par la foi? Alors, il y a des classiques dans Hébreux 11. Hein. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, de ces hommes qui ont vraiment obéi Dieu, qui sont avancés, qui ont remporté des victoires, qui ont été là, des modèles de foi. Ils ont renoncé, ils ont fait toutes sortes de belles choses, ils sont des modèles de la foi. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Il y a dans ces récits de foi, il y a trois exemples bizarres, vraiment curieux. C'est Abel, Enoch et Sarah. Et je vais parler d'Abel, d'Enoch et de Sarah. Abel, il a servi dans le plan de Dieu. Enoch, il a plu à Dieu. Et Sarah, elle a reçu une promesse, tout par la foi. Mais si on lit ces versets, c'est assez curieux. Il faut vraiment réfléchir pour voir comment ça s'articule. Parce qu'on a des idées préconçues sur ce qu'est la foi. Et quand on lit ça, c'est un peu en tension. La foi de Moïse ou la foi d'Abraham, on comprend. Là, c'est plus curieux. Alors, on va essayer de décoder un peu ensemble pour voir qu'est-ce que ça nous apprend. Alors, Abel, en premier, c'est Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Alors, je vais lire le passage dans l'Ancien Testament qui correspond. C'est dans Genèse 4, les versets 3 à 5. Alors, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Qu'est-ce qui distingue finalement ces deux offrandes? Il y en a une qui est plus grande, qui est meilleure, un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux offrandes? En fait, ces deux hommes, ils ont fait la même chose. Ils ont apporté du fruit de leur travail. Un cultivateur apporte du grain, disons, et puis un berger, ben, il a un troupeau, il offre un premier-né, sa graisse, donc il le tue. Mais qu'est-ce qui fait la différence là? Qu'est-ce que dans l'esprit de ces deux hommes faisait? On apporte la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, ce passage nous dit, c'est la foi. Par la foi, Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Caïn, il n'a pas la foi. Abel, il a la foi. C'est ce qui fait la différence entre ces deux hommes. Puis en fait, il y a une différence. Il parle de la différence, ce n'est pas seulement la manière d'offrir l'offrande, le cœur avec lequel on offre, mais l'offrande elle-même est différente. Mais ils n'avaient aucun moyen de savoir, à cette époque, qu'est-ce qui faisait cette différence. Pour nous, on relit ça et on se dit, ah oui, il a offert un agneau, un sacrifice, clic, on dirige nos yeux vers Jésus. On comprend que c'est la croix qui est préfigurée là-dedans, que c'est le plan de Dieu. Et on se rend compte que Abel, il a offert un sacrifice sur lequel il ne savait pas finalement ce que ça avait de valeur, mais que ce sacrifice, finalement, ouvre une porte pour comprendre le plan de Dieu. Il a, en fait, par cet acte, servi le plan de Dieu. On connaît des choses, et c'est tout ce long mouvement qui va aller jusqu'à Jésus commence par cet acte-là. Comment il a pu faire ça? Eh bien, c'est par la foi. En fait, finalement, il a reçu une impulsion, une direction divine qui lui a dit offre cela. Il n'en était pas conscient, mais il l'a fait. Et ça me fait réfléchir. Je dis, il y a beaucoup de nos actions dans nos vies qu'on fait sans réaliser vraiment le sens qu'elles ont. Dieu nous conduit, nous inspire, parce qu'on a la foi, de faire des choses qui finalement construisent son royaume, le font avancer. Mais dans bien des cas, on n'en est tout simplement pas conscient. Et je dirais heureusement, si notre participation à la construction du royaume de Dieu n'était que les choses que l'on fait consciemment, en y réfléchissant, ben, il n'y aurait pas grand-chose dans nos vies qui aurait peut-être ce sens de travailler dans le royaume de Dieu et pour ce royaume. Il y a une fois un prédicateur, enfin, un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manfred Engeli, que beaucoup connaissent, il nous a dit une chose qui m'avait vraiment frappé il y a 30 ans de ça peut-être. Il avait dit, on sert Dieu et Dieu nous donne des indications, nous montre des choses qu'on a à faire. Il nous demande finalement notre autorisation pour agir, pour faire les choses. Mais dans 80% des cas, ben Dieu ne nous demande pas notre autorisation. Il fait les choses avec nous sans nous demander notre avis. Ça m'avait vraiment frappé, je trouve que ça rejoint cette histoire d'Abel. Heureusement, ben Dieu s'occupe de nous et nous permet de faire des choses qui le servent sans même qu'on en ait la conscience. Et on se dit, mais où est la foi là-dedans si c'est inconscient? On peut lire attentivement. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il met ensemble l'offrande, la bonne chose, mais Abel lui-même. Et puis, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que Abel et Caïn, d'ailleurs, ils ont su que l'offrande était acceptée ou pas acceptée. Et je trouve que c'est là où la foi intervient. On fait beaucoup de choses simplement poussées par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Caïn a aussi fait quelque chose où il a voulu offrir. C'est une bonne pensée, mais la différence, c'est que, comment dire ça, Abel, il a la vie de Dieu. Abel, il y a un canal qui fait que Dieu peut agir avec lui. Il a ce canal, et puis le résultat, la différence entre Caïn et Abel, si on veut, c'est que Abel, quand il a fait cet acte, ben, il a reçu l'approbation de Dieu. Il a su qu'il avait fait juste. Il peut être... Ben, il a fait ça et Dieu l'a béni. Il a connu la grâce. Il fait comme son frère et puis ben, Dieu l'accueille. Dieu le connaît. Il a voyez, cette capacité de, finalement, dans cet acte, de connaître Dieu. Je crois que souvent, quand on fait des choses, on ne se rend pas compte qu'elles sont pour Dieu. Mais bien des cas, et pas toujours, Dieu, il a cette bonté de, ouais, je dirais, de nous rendre conscients de son appréciation. Je vous l'ai raconté souvent, pour moi, un des événements les plus marquants de ma vie, c'est une fois où je me suis placé devant Dieu avec toute ma faiblesse, toutes ces choses-là. Et puis Dieu m'est profondément, j'ai vraiment ressenti très au fond, il me disait merci. Merci pour les choses qui pour moi étaient, j'arrivais devant lui plutôt avec le sentiment de mon échec, de ma faiblesse. Et Dieu m'a dit merci. Et je crois que c'est vraiment ça la foi, c'est d'être capable de recevoir gratuitement, pas parce qu'on a fait, mais gratuitement, l'appréciation de Dieu. Et cependant, ce qu'on a fait travaille pour le royaume de Dieu. Et ça nous rend bien humbles, je dirais, dans ce qu'on fait. Ça vient vraiment de Dieu, c'est que lui qui le fait. Mais quelle bonté d'accueillir ce qu'on fait, de l'utiliser. Ensuite, Enoch. Alors, c'est Hébreux 11, les versets 5 et 6. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Passage parallèle, disons, dans l'Ancien Testament, c'est Genèse 5, versets 21 à 24. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Ça, c'est ce qui m'a frappé en lisant ce passage, c'est ce fait que les héros de la foi, Abraham, Moïse, ils font des actes, on le sait. Enoch, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait rien. En fait, la Bible présente ça, il a simplement marché. Comme tout le monde, il a marché. Il n'y a aucun événement marquant, il n'y a aucun acte de foi. Les autres hommes, ils ont, par exemple, si on peut lire le verset 33, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée. Ça, c'est voilà des actes de foi. Ça, c'est solide, on le voit, des victoires. Enoch, il a marché avec Dieu. Et vous savez, moi, je me sens plus proche d'Enoch que de tous ces hommes de foi. Nos vies, elles sont souvent essentiellement sans relief. On vit notre vie et elles n'ont rien qu'on puisse vraiment raconter. Si on veut raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, des fois, à la limite, en tout cas, c'est ce que j'ai, l'impression que j'ai, j'exagère un peu, je force pour montrer les choses, je force un peu la réalité, c'est plus mélangé. Marcher avec Dieu. Et cependant, sans que rien soit dit d'Enoch, il est dit qu'il est agréable à Dieu. Il a marché simplement avec Dieu, mais il a marché jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a marché avec Dieu. Et quelqu'un me s'est remarqué une fois, c'est quand même bizarre qu'il ait vécu 365 ans, comme il y a 365 jours dans l'année. Ça veut peut-être dire que l'important, c'est la durée, c'est d'un bout à l'autre de la vie, de la naissance jusqu'à qu'il soit enlevé, il a marché avec Dieu, et Dieu l'enlève à la fin. Il est sauvé, si on veut, c'est un peu particulier, mais quand même, nous aussi on vit notre vie, de notre naissance à notre mort. Et comme Enoch, quand on meurt, on est enlevé. On se retrouve finalement dans la présence de Dieu. Comment est-ce possible que des vies si ternes puissent être agréables à Dieu? Eh bien, ce que dit ce passage, c'est que c'est par la foi. Par la foi. Je retrouve le passage. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lui, il est dit, il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Pourquoi la foi est si importante? C'est parce qu'il nous est totalement impossible de marcher avec Dieu sans, je dirais, sans son esprit, sans son travail en nous, sans son intervention en nous. Marcher par nous-mêmes, on l'a vu du verset tout à l'heure, hein, comment c'est dit, ce qui n'est pas avec la foi ou selon la foi est péché. S'il n'y a pas cette relation continuelle, cette foi constante, cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit avec nous, on ne peut tout simplement pas marcher avec Dieu. On ne peut simplement pas être agréable à Dieu. Il y a besoin de cette foi constante pour recevoir la force, les ressources, le pardon, la lumière, la grâce pour recevoir notre identité. Tout ceci découle constamment de la foi, c'est-à-dire d'une relation avec Dieu, c'est-à-dire d'accepter, de recevoir sans cesse ses ressources, ses dons, son esprit, les choses qui nous permettent de marcher avec Dieu. Et des vies comme celle-ci, elles plaisent à Dieu. Dans nos vies, il y a certainement des tas de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais le fait d'avoir la foi, d'avoir cette relation avec lui, fait que ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, elles sont gérées par la croix. Et ils restent dans nos vies, au travers de nos actes tout simples, mais qui sont, sans qu'on en soit conscient, sont produits, soutenus, éclairés par l'œuvre de Dieu. Ça plaît à Dieu. Êtes-vous conscient, sommes-nous conscients que nos vies, si ternes, je dirais, sont agréables à Dieu. Que dans cette vie-là, on plaît à Dieu. Par la foi, c'est reçu. C'est pas si conscient que ça. Mais vous savez, nous savons. Tu, je, vous, plaisez à Dieu. Et pourquoi ça plaît à Dieu? C'est finalement parce qu'il plaît à Dieu, c'est de nous donner ses ressources, c'est de marcher avec nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour vivre avec lui, c'est pour marcher avec lui. Et le fait que par la foi, même faiblement, on reçoit, on avance, on marche avec lui, ben ça lui plaît, c'est son but. Quand notre but est atteint, finalement, on est heureux, on est content. Eh bien, Dieu, je dirais même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans cet épître aux Hébreux présenté comme celui qui est le sacrificateur, celui qui nous soutient, celui qui nous aide, c'est sa joie de le faire. Il vit quelque chose qui lui plaît. Et le plaisir qu'il trouve dans nos vies, c'est finalement le plaisir qu'il trouve à nous aimer, à être avec nous, à remplir son but. Ça n'a pas grand-chose à faire avec nos actions, ça a à faire avec ce fait qu'on marche, on avance avec. Et le troisième personnage, je trouve que c'est encore plus curieux, c'est Sarah. Alors dans Hébreux 11, verset 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Ok, comme les dernières fois, on va voir dans l'Ancien Testament ce qui est dit. Alors cette fois, c'est dans Genèse 18, verset 10. C'est la rencontre entre Abraham, l'Éternel et un ange, ils sont plusieurs, il y a tout un dialogue. L'un d'eux dit, et c'est l'Éternel qui parle, l'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore du plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. » Je me demande la réaction d'Abraham quand il entend ça. Franchement. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi et à la même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Comme modèle de foi, il me semble qu'on fait mieux. Hein, c'est quand même assez curieux. Et cependant, si Dieu a pu accomplir sa promesse au travers de Sarah, c'est par la foi. La première leçon, c'est que rien n'empêche Dieu de faire ce qu'il veut. Ça, on peut bien comprendre. Rien n'empêche de faire Dieu ce qu'il veut, mais de le faire aussi avec Sarah. Parce que Dieu voit en Sarah, il la connaît, il voit en elle qu'elle a la vie, qu'elle est ouverte finalement à l'esprit, que ce canal entre lui et Sarah existe, même si dans ce cas-là, elle n'a pas cru à la promesse. Mais le verset nous dit, elle a, pas qu'elle ait cru ou pas cru à la promesse, elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Donc il y avait chez Sarah une vraie connaissance de Dieu, une vraie relation avec lui. Et franchement, ça se manifeste à la fin. Une fois qu'elle a eu son enfant, qu'est-ce qu'elle dit? C'est cette fois au Genèse 21, donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans ma vieillesse. » Ce rire d'incrédulité, il devient un rire de joie. Elle peut se moquer d'elle-même, elle réalise finalement, elle est émerveillée de cette grâce de Dieu. « Qui aurait osé dire à Abraham que j'aurais un fils ?» Tout à coup, elle connaît Dieu, voyez. Et puis elle reconnaît ses limites aussi, elle réalise qu'on peut se moquer d'elle. Elle ne se prend pas au sérieux, Sarah. Elle réalise à quel point elle dépend de Dieu. Et elle a fait une expérience profonde de cette grâce de Dieu, qui même quand on est incrédule, et c'est assez grossier quand même, peut passer au-dessus, et puis nous bénir, et puis accepter la réalité de notre foi, de la relation, de la nouvelle naissance, si vous voulez, du fait qu'on le connaît quand même, et faire des choses avec nous au-delà, bien au-delà de ce que nous, on trouverait qu'il peut faire avec nous. Il a beaucoup plus de grâce, et ce n'est pas simplement parce qu'il a envie d'accomplir son plan qu'il le fait. Il a envie que Sarah rie, mais rie pour de bon. Il a envie de cette relation, de cette vie. Et il le fait, et il le fait dans nos vies aussi. Rien n'arrête les promesses de Dieu, rien n'arrête sa volonté de nous bénir, même notre incrédulité finalement. Il s'en occupe, il travaille avec nous, il nous corrige et il accomplit ses promesses. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas tellement nous, notre foi, ce qui est important, c'est Dieu et le cœur de Dieu. Un des problèmes qu'on se rencontre dans toute cette question de foi, c'est qu'on regarde notre propre foi. Et ces passages nous montrent, non, il faut regarder à Dieu. C'est lui qui fait, ce n'est pas ma foi qui opère les choses. En fait, Hébreux 11, on pourrait le réécrire en remplaçant chaque fois le mot foi par le mot grâce ou par le mot esprit. C'est par l'esprit que Abel a offert ça, c'est par l'esprit que Sarah a enfanté, c'est par l'esprit. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit. Alors pourquoi il a mis la foi? Mais c'est parce que Dieu a envie de notre réponse. Il nous associe à ce qu'il fait. Il veut nous faire avec. Et c'est important qu'on réponde, qu'on s'attende, qu'on est des êtres responsables. Il veut nous. Dans les autres passages sur la foi, il y a vraiment des choix, des décisions, des obéissances, des renoncements. Il y a toute une dynamique qui existe. C'est important la foi. Mais ce n'est pas le cœur de la chose. Le cœur de la foi, c'est réponse, c'est accueillir, c'est recevoir finalement. C'est centré sur ce que Dieu fait. Répondre à Dieu, c'est vraiment ce qu'il nous demande. Accueillir Dieu. Et comment ça se fait? Je termine par là. Comment on répond à Dieu? C'est Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On est dans un cadre difficile. Le péché il nous enveloppe vraiment facilement. On est aveugle à tellement de choses. Il y a des obstacles, c'est une course. Elle est difficile, il faut persévérer, il faut passer des obstacles toujours. Comment le faire? Comment recevoir, vivre de cette foi, de cette réception du travail de Dieu qui permet de faire ça? Eh bien, c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure déjà. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il est assis à la droite du trône de Dieu. finalement, la seule source, la seule réalité qui nous permet de persévérer, d'avancer, de recevoir les obstacles, le secours, c'est l'Esprit de Dieu. C'est en fait Jésus par son Esprit. Le cadeau continuel, pas seulement celui du salut initial, mais cette foi qui a toujours besoin, comme disait ce verset, vient en aide à mon incrédulité. Cette foi-là, elle dépend totalement de l'action de Jésus. Sans lui, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut regarder à lui, à cette dynamique de recevoir toujours. C'est lui qui agit, c'est lui qui aime, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui est la ressource. On dépend totalement de cette aide-là. Sans ça, on ne peut rien faire. On peut dire, j'ai la foi, mais la foi, c'est justement reconnaître ça. C'est pour ça que c'est important de regarder, de se connecter à Jésus. Et il me semble qu'il y a deux choses importantes. Se connecter à Jésus, c'est une chose. Fixer les regards, regarder Jésus. Ce n'est pas simplement se connecter, c'est mis le regarder. Pourquoi ? Il fait naître la foi, l'amène à la perfection, c'est lui qui fait ça. Mais comment il l'a fait ? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il est assis à la droite du trône de Dieu. On a vu que dans Hébreux 11, il y a des témoins de ce qu'est la foi. Mais le plus grand témoin, le principal témoin, c'est Jésus. Et on apprend comment marcher par la foi en regardant comment Jésus a marché. Finalement, c'est ça. Il nous conduit, il nous porte, il nous aide, il nous fait avancer, il nous empêche de tomber, il nous fait arriver jusqu'au bout, il se réjouit en nous. Mais qu'est-ce qu'il est, lui ? Ben, il a accompli ce chemin dans ce monde. Il est vraiment le modèle. Et c'est le chemin de la croix. La joie qui est devant lui, c'est le but, il y a quelque chose qui vient. Mais le chemin, il est difficile. Le chemin, c'est un chemin de croix. Et je crois que c'est une des composantes importantes à réaliser pour marcher par la foi, pour traverser ce monde, c'est que c'est le chemin que Dieu veut. Le chemin difficile, il est. Ce n'est pas un accident, c'est une volonté de Dieu. Parce que c'est le chemin du salut qu'a poursuivi Jésus. Et il veut être pour nous comme un témoin, un modèle. Et la Bible le dit clairement. Mais regarder à Jésus, c'est aussi se connecter vraiment à lui. Accueillir sa sympathie. L'Épître aux Hébreux le dit tout le temps. Il est là, il a souffert, il a appris pour sympathiser, pour compatir, pour être avec nous. Et finalement, c'est le but central, je pense, de ce chemin. C'est de faire l'expérience de ce secours de Dieu, l'expérience de cette sympathie de Dieu, l'expérience finalement de son amour. Et c'est dans cet accompagnement qu'il a avec nous qu'on fait vraiment, qu'on apprend à le connaître tel qu'il est vraiment. On peut avoir des grandes phrases et toutes sortes de théories, mais le cœur de Dieu, on ne l'apprend finalement que dans cette expérience de marcher avec lui, de sentir son secours, de réaliser les choses. C'est ce qu'ont réalisé finalement Abel, c'est ce qu'ont réalisé Enoch, cette approbation de Dieu, cette proximité de Dieu. Ils ont appris à connaître Dieu de cette manière-là. Et c'est le but de notre vie, c'est apprendre à connaître Jésus. Et en fait, c'est beaucoup plus profond qu'on peut le penser, parce que quel est le but de Dieu ? En ayant créé l'humanité, en ayant créé l'univers, en ayant créé l'humanité, en ayant permis la chute, en ayant tout ce chemin, qu'est-ce que Dieu veut ? L'Épître aux Éphésiens, elle dit plusieurs choses, mais entre autres, depuis le verset 9 du premier chapitre, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, la volonté de Dieu, le mystère de cette volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Il y a un projet bienveillant prévu par Dieu en Christ, un projet, lequel est-il ? À savoir, de tout réunir dans le Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. À savoir, de tout réunir dans le Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. finalement au cœur de ce que Dieu veut, de Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est que tout soit lié à Jésus, que tout soit pour lui, avec lui, pour lui. Et si on réalise combien pour Dieu c'est important que Jésus reçoive, connaisse et que l'univers lui appartienne et que tout ceci, cette communion et cette relation soit, que tout soit en lui, ben on peut bien comprendre à quel point c'est important de dépendre de Jésus. Ce n'est pas simplement quelque chose, il est là pour nous aider, pour arriver au bout. Il est là pour, je dirais, recevoir ce pourquoi Dieu a créé l'univers et nous a créés. Déjà, quand on vit avec Jésus, c'est un avant-goût de cette réalité. On a le privilège, avant l'éternité, de déjà être en Christ, de déjà lui appartenir. C'est difficile à saisir et toute la marche nous aide à comprendre de cela. Mais finalement, c'est le but. C'est pour ça que c'est si important, quand on marche, quand on vit même une vie toute plate, d'avoir cette conscience et cette appréciation et ce regard fixé sur Jésus. C'est le cœur de la volonté de Dieu pour aujourd'hui. C'est le cœur de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Mais déjà aujourd'hui, le plus important qu'on puisse faire, c'est de réaliser à quel point Jésus est là et interagit avec nous. On fait l'expérience de Jésus qui sera notre expérience plus profonde dans l'éternité, mais réalisons ce que c'est aujourd'hui, déjà, de connaître Jésus. Marchons avec espérance, avec réalisons que ça vient de lui, ça n'a même pas à être un effort, mais c'est un accueil, c'est ça la foi. Mais la foi, elle accueille une personne, Jésus. On apprend à le connaître, mais fixer les yeux sur lui. Ben, Seigneur Jésus, que faire sinon réaliser qu'on ne va pas créer cette foi, mais que tu l'as créée en nous, et te dire merci. Merci pour la réalité de ton intervention dans nos vies. Merci pour la réalité de ce qu'on connaît même faiblement de toi, mais qui est porteur de vie et qui est un avant-goût de l'éternité. Seigneur, permets-nous d'être nettoyés de tout ce qui cache ces choses-là pour que ce soit toujours plus réel dans chacune de nos vies. Ouvre-nous, Saint-Esprit, à recevoir toujours, quotidiennement, Jésus. Amen.